Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est indispensable de comprendre que l'histoire donne un rythme au futur.
La Guyane, l'île mystérieuse.
À droite, on a l'île La Mer. C'est la plus grande des îles, c'est aussi la plus riche en histoire, puisqu'il y a eu un bagne pendant plusieurs dizaines d'années. Derrière, il y a deux petits îlots qui s'appellent les Mamelles. Ensuite, à gauche, on a l'île Le Père, donc la deuxième île en taille. Et on a aussi l'Enfant Perdu. Et là, il y avait un petit phare.
Avant d'atterrir à Cayenne, qui est une île, on ne voit que des îles. D'ailleurs, à y bien réfléchir, la Guyane côtière tout entière est une île. Long ruban de terre entre l'océan et l'immense forêt, participant de plusieurs univers économiques, le latino-américain, mais plus encore le caribéen, voire l'européen, par son appartenance à l'UE. Mais la Guyane intérieure, elle aussi, si on la prend au sens large, est aussi une île. Elle est circonscrite par l'Amazone et l'Orénoque, des fleuves qui manifestent une telle puissance qu'ils en paraissent merveilleux. Au centre de cet espace, on plaça longtemps l'Eldorado, le royaume d'un homme dont la peau était d'or et qui n'hésitait pas à sacrifier ses richesses en les jetant au centre d'un lac. La Guyane est aussi un trou, un creux. Enfin, la Guyane est un socle, un bouclier, d'où partent de nombreux fleuves qui divergent de ce château d'eau initial. Ces bassins fluviaux créent des enclaves de peuplement autonomes. Les fleuves n'incisant pas le socle, ils s'étalent et soudain, un rapide, une chute, leur permet de s'écouler plus bas. À ces lieux de rupture s'accrochent des hommes, comme d'autres s'accrochent aux ports sur la côte. Autant d'îles supplémentaires. Il n'est donc pas inexact de dire que la Guyane est une île. Il serait plus juste encore de dire que c'est un archipel dont le premier point commun est la dispersion, l'éclatement.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La marche de l'histoire va être paradoxale aujourd'hui puisque son invité est Emmanuel Lézy. Bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Emmanuel Lézy, un maître livre sur la Guyane qui est encore disponible dans les entrepôts de Belin, excellent éditeur. Et malgré son âge. Emmanuel Lézy, vous avez habité longtemps en Guyane. Vous avez marché pieds nus sur la terre sacrée. C'est ainsi que doit faire un géographe.
C'est comme ça que faisaient certains explorateurs, comme Jules Crevaux, qui était l'explorateur aux pieds nus. C'est comme ça que les aspérités du sol, la rugosité du sol guyanais l'impose assez régulièrement. Quand on traverse ces sauts dont vous parliez, quand on marche dans la forêt, c'est assez fréquent de perdre ses chaussures. Et à ce moment-là, il y a toute une masse d'informations qui remontent, non pas par le cerveau, par les yeux, mais par les pieds. Mais là, l'information de douleur,
votre livre,
de plaisir.
Ouais. Guyane au pluriel, a pour sous-titre une géographie sauvage de l'Orénoque à l'Amazonie. Vous vous intéressez beaucoup à la façon de nommer, vous vous intéressez beaucoup à la façon de rêver, mais je vais vous contraindre aujourd'hui au devoir conjugal, parce que c'est un devoir conjugal pour un géographe que de faire un peu d'histoire.
D'une certaine façon, effectivement, l'histoire c'est la perpendiculaire de la géographie et sans elle on n'a aucune impression de volume, aucune impression dynamique, on n'a pas de forme sur ces territoires qui en Guyane sont des territoires spatio-temporels. Comme vous le disiez, c'est des territoires qui sont toujours articulés sur un mouvement d'eau côtier ou fluvial, qui montent ou qui descendent. Les distances sont pas les mêmes selon que vous montez une rivière ou que vous la descendez. Il y a pas de kilométrage, il y a que des heures de temps, il y a qu'un vécu. L'histoire, c'est une dimension essentielle du territoire. Oui.
Nous sommes à la pliure du monde catholique portugais et du monde catholique espagnol qui s'étendent. Là, je vous parle d'histoire. Je vous parle du XVIe siècle. Et il va y avoir du coup possibilité d'expéditions protestantes, et d'abord celle de Raleigh en 1595, un Britannique qui a voyagé sur l'Orénoque au nord, qui a effleuré seulement la Guyane, mais qui en a rapporté quelque chose d'extraordinaire, une légende dont vous dites qu'elle croise celle de la Jérusalem céleste, celle des Indes, l'Eldorado.
Tout à fait. Raleigh ramène deux choses. Il ramène une légende, mais il ramène aussi une carte dressée par son lieutenant, Laurent Kémis. C'est la première carte moderne, je dirais, dressée sur des principes qui ne sont plus des principes théologiques, dressée sur une sorte de contradiction interne qui restera le monde de la Guyane, c'est-à-dire un littoral qui va être extrêmement précis et extrêmement riche en toponymes. C'est Vidal de la Blache qui, en 1902, montre l'importance de la géographie protestante dans la région, puisqu'on a remplacé tous les toponymes catholiques de Veracruz, de Santa Maria, etc., etc., par des toponymes amérindiens, locaux, qui sont récupérés à ce moment-là par des explorateurs protestants, qui se sentent donc une affinité très forte avec les Amérindiens, eux aussi persécutés par les catholiques, eux aussi minoritaires par rapport à la colonisation globale, et absolument indispensable pour une colonisation de très peu de personnes qui doit, pour survivre, trouver une accointance avec les populations locales.
Oui, mais ça, ce sont les Amérindiens, je veux bien, mais ils habitent à la périphérie d'un trou, d'un lac, d'un royaume dont le centre est un trou, l'Eldorado.
Alors là, vous parlez de la Guyane dans son ensemble.
Ah, là, on parle de la Guyane dans son ensemble.
On est au niveau, voilà, au niveau de la
définition. C'est-à-dire quelque chose comme 4 fois, 5 fois la France, allez, si on veut faire une comparaison.
Plus, la Guyane, c'est 2 millions de kilomètres carrés. La Guyane française, c'est 90 millions de kilomètres carrés, selon qu'on intègre les territoires un peu disputés encore avec le Suriname ou pas.
Là, on est au temps de l'exploration, avant la colonisation.
Voilà, donc la Guyane qui apparaît comme un œuf absolument ronde, absolument pleine, comme une lune, dans un ciel qui n'était pas déjà un ciel serein. Il avait déjà explosé à la suite du troisième voyage de Christophe Colomb 100 ans plus tôt, en 1498, lorsque Colomb dit « Ici, on a des courants d'eau douce qui sont fantastiques, qu'il appelle le dragon et le serpent, qui s'abouchent au delta Amakuro, dans l'embouchure de l'Orénoque, et il dit « Cet endroit-là, c'est un continent ». Et lui n'en démordra pas, cet espace clos, cet espace circonscrit par des grands mouvements, c'est le territoire qu'il cherche, c'est pas le Nouveau Monde évidemment, c'est le plus ancien des mondes, c'est l'Éden. Lui, ce qu'il a trouvé, c'est une route nouvelle vers le plus ancien des mondes.
Et donc, Raleigh.
Alors Raleigh, lui, en 1596, lui, va... 1496, pardon.
Non, 1500.
1596, oui,
mais en 1516,
les années de la naissance du... Utopia.
Un peu d'histoire,
de Thomas Moore. Désolé. Je suis pas très doué sur les chiffres. J'aurais dû regarder avant. Mais 100 ans plus tard, donc, effectivement, 100 ans plus tard, Walter Raleigh apporte un nouveau coup de tonnerre. C'est un nom. Le toponyme de Guyane qui arrive. Alors Raleigh ne va pas jusqu'au trou, il va pas jusqu'à ce lac Toponowini, ce lac parimé qu'il décrit, au bord duquel doit se trouver la ville de Manoa, qui, dit-il, est la plus grande du monde, dans lequel, effectivement, on aurait un personnage qui serait le frère de l'Inca, une colonisation Inca, présence Inca, présence Quechua, qu'on retrouve dans les toponymes comme les Tumucumac, et qui s'offrirait dans une dimension extrêmement christique, qui s'offrirait à son peuple, à sa nation, régulièrement. Il donnerait son corps pour l'épanouissement de sa région.
Alors vous en étiez au nom?
Alors ce nom de Guyane, c'est un nom qui est extrêmement ambigu, paradoxalement mystérieux, puisque c'est un nom qu'on va retrouver à peu près partout. Tous les toponymes de la Guyane disent la même chose, Cayenne, Oyapok, Wayapi, Wayana, etc. Waya, ce toponyme Waya, Guaya, Oya, est extrêmement courant. Il est souvent traduit par le terme eau, beaucoup d'eau. On est dans un pays très pluvieux, jusqu'à 4000 millimètres de précipitations par an. On a des fleuves très importants, mais surtout on a une dispersion, comme vous le disiez, du réseau hydrographique. On n'est pas dans la domination d'un bassin hydrographique et on n'a donc pas de creuset d'intégration nationale adapté au projet catholique. Au contraire, le cloisonnement, la répartition des sociétés selon des principes d'isolement, de splendide insularité, est parfaitement adapté aux rêves protestants.
D'où le caractère pionnier des protestants, vous dites, dans un article à paraître de Libération. La Guyane, c'est la France, si elle avait été dominée par les protestants, c'est-à-dire une fragmentation, un éclatement. Un siècle plus tard, comme vous diriez, enfin un peu moins d'un siècle plus tard, 1735, voici que la Condamine va explorer la Guyane, toujours au sens large, lui, il a descendu l'Amazone. Voici le récit qu'en fait un explorateur plus tardif du XXe siècle, également député à 16 heures, Monsieur Flournoy.
Voyez-vous, les Français, quand on les trouve sur les territoires lointains, s'intéressent beaucoup plus aux colibris et aux jolis petits oiseaux qu'à l'or des Incas ou aux légendes de l'Eldorado. La suite de l'exploration française en Amérique du Sud nous donne la preuve de son caractère humain, et même humaniste. On n'a qu'à se souvenir de la Condamine. La Condamine, c'est le plus grand explorateur du XVIIIe siècle. Vincent d'Amine, qui a fait pour la connaissance du continent sud-américain plus que tous les autres voyageurs de son époque et des époques précédentes, mais ce qui l'amena aux rives de l'Amazone, ce n'est pas tant le goût du voyage que les problèmes qui passionnaient l'époque, la taille et la forme du globe terrestre. Vincent d'Amine, à 29 ans, avait été élu à l'Académie des sciences, et il prit la direction d'une expédition de 10 savants, dont le but était de mesurer l'arc du méridien. Après cette mission géodésique qui l'amenait sur la cordillère des Andes, sur ses hauts sommets glacés, il descend jusqu'à l'Amazone, c'est-à-dire jusqu'à cette plaine alluvionnaire couverte de forêts vierges, et là, il descend le fleuve en radeau, collectionnant les premières écorces de quinine, révélant au monde le caoutchouc, notant les coutumes des Indiens, et ainsi qu'il l'écrivait, se reposant parmi les sauvages d'avoir vécu chez les hommes.
Ce qui vous intéresse chez Vincent d'Amine, c'est la constatation qu'il fait que communiquent le bassin de l'Amazone et le bassin de l'Orénoque, et que donc, pour le coup, ça se confirme. C'est un continent, c'est une île.
C'est une île, c'est une île.
Toujours la Guyane au sens large.
La grande île de la Guyane s'est construite par l'Orénoque, par le Rio Negro qui se jette dans l'Amazone. L'Amazone qui est le plus grand courant d'eau douce du monde, 200 000 mètres cubes secondes à l'embouchure, qui est plaqué le long des côtes de la Guyane par le plus grand courant d'eau salée du monde, qui est le courant équatorial d'Est, et qui va faire remonter l'Amazone quasiment dans son intégralité le long des côtes de la Guyane. C'est donc pas l'océan Atlantique qui baigne Cayenne, mais l'Amazone qui a perdu son nom, et qui va retrouver son embouchure réelle au droit du delta Amacuro, comme on l'a dit tout à l'heure. La condamine, d'un seul trait, il va trouver à la fois la complétude du cercle terrestre, mais aussi la clôture du cercle guyanais. Hein, effectivement, de façon quasiment incidente, il note à Manaus que des Indiens viennent de l'embouchure du delta de l'Orénoque et prétendent être remontés en canoë, faisant la liaison entre les deux plus grands bassins versants de l'Amazonie, qui sont l'Orénoque et l'Amazone.
L'installation française va commencer au milieu du XVIIIe siècle. Il y aura les Hollandais, il y aura les Anglais, mais vous dites que politiquement ça n'existe pas, la Guyane, d'autant que ce grand socle, ce château d'eau intérieur, va redistribuer des fleuves divergents. Il faut regarder les choses le long des fleuves en les remontant, ainsi que vous l'avez fait souvent. Nous sommes au nord, là, sur le Maroni. Maroni, puisque vous vous intéressez au nom Maroni.
Maroni, c'est le fleuve des Noirs Marrons. Et les noirs marrons, c'est évidemment pas leur couleur, ni noir, ni marron, ni même ultramarine, n'en déplaise au ministre. Mais c'est le fait de se marronner, hein, de se révolter. Et ce sont l'équivalent des quilombos brésiliens, ce sont des gens qui n'ont jamais accepté l'esclavage, qui n'ont jamais été en esclavage et qui, dès qu'ils ont touché le sol guyanais, ont retrouvé des structures qui leur étaient familières ou nouvelles, mais qui ont créé des entités totalement autonomes, des petites îles de peuplement complètement closes.
Un responsable de village, pardon, un capitaine d'île sur le Maroni dans un très bon documentaire en 5 épisodes de Nejma Bouakra qui a été diffusé et rediffusé récemment sur France Culture.
Nous, les Aloukous, après être sortis de l'esclavage et du Suriname, nous nous sommes enfuis par les fleuves à Tapanuahine et nous nous sommes installés sur les fleuves car nous sommes les maîtres du fleuve. Nous ne sommes pas passés par la forêt. Nous, les Boni, les Aloukous, c'est nous qui dirigeons toute cette partie du fleuve. Nous ne reconnaissons ni les frontières françaises, ni les frontières hollandaises, ni le Suriname, ni les frontières de la Guyane. Nous dirigeons l'ensemble du fleuve de Saint-Laurent à Ntani. Toute cette partie nous appartient. C'est ce que m'ont raconté les anciens.
Vous avez quel âge, capitaine Opodo?
Moi,
j'ai 100 ans. Parce qu'au moment où je suis né, des villages existaient qui aujourd'hui ne sont plus. Et cela fait 100 ans.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Mais parlons de la Guyane, un archipel Et les îles du Maroni, échelonnées, sont, Emmanuel Lézy, vous qui les connaissez bien, occupées par des marrons, mais à d'autres échelons, plus près de Saint-Laurent-du-Maroni ou à Saint-Laurent-du-Maroni, ça peut être des créoles.
Alors il y a toute une géopolitique du Maroni, hein. J'en parle sous le haut patronage de Frédéric Piantoni que vous avez invité au début de l'émission, qui est le spécialiste du Maroni. C'est quelqu'un que je respecte et que je lis avec beaucoup de plaisir. Donc je vais vous donner simplement mon impression. Et on a une géopolitique qui s'est mise en place à la fin du 19e siècle, au moment où on a distribué justement des bâtons de capitaine et où des traités ont été signés entre la France et ses responsables des populations marrons. Les traités ont été signés autour de cette confluence dont vous parliez entre le Maroni et Tapanahoni sur le versant surinamien, avec une centralité autour de l'île de Papaïchton.
Vous parlez le capitaine.
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc on a une centralité très très forte autour des Alukunenge, qu'on va appeler les Boni en Guyane française, qui tiennent effectivement la circulation matérielle économique sur les seaux, le déchargement, le rechargement des pirogues, qui lèvent aussi des douanes sur ces seaux, c'est-à-dire qu'on a ici des frontières qui sont exactement perpendiculaires à celles de l'État français ou de l'État surinamien. On a des frontières qui sont des frontières de terre, bloquant la seule circulation, qui est une circulation d'eau. À partir de ce moment-là, on a une ambiguïté très très grande sur la légitimité de la loi qui s'exerce et sur le passage des différentes frontières ethniques, nationales, à cet endroit-là. Ça a été extrêmement compliqué au moment de la guerre civile au Suriname, entre 86 et 92, lorsque les combattants au Suriname venaient évidemment se replier après leur combat sur la rive française. Et la gendarmerie, je travaillais avec eux à l'époque dans le cadre de mon service d'aide technique, la gendarmerie a été obligée de reconnaître la validité des traités qui avaient été signés par l'État français. On est donc non seulement à la périphérie du territoire français, de l'État français, mais on est vraiment sur les limbes du droit français, de la pensée du territoire, à un endroit où d'autres formes d'appropriation et de légitimité s'exercent.
Un socle, un château d'eau, expliquez-vous sans cesse, et des fleuves divergents. Alors nous voici maintenant sur un autre fleuve, non loin de la frontière du Brésil, nous sommes au sud, sur l'Oyapock, où vivent les Wayampi. Les Wayampi, au fond, on les présente comme venant d'une civilisation d'autrefois. Ils sont arrivés plutôt après les Français, non?
À partir du 19e. Ça fait partie des colons.
Oui, c'est ça.
Ça fait partie des colons de la Guyane qui sont installés, qui ont franchi la ligne de partage des eaux que nous reconnaissons comme étant les Tumucuma, qui sont simplement une série de Dinselberg en 1860 à la suite d'un grand héros qui s'appelait Waninka, hein, dont on a toute la geste qui a été sauvegardée par les époux Grenant qui vivent là depuis très longtemps sur Camopi. Donc on connaît assez bien l'histoire des Wayampi.
Cette ancienneté devrait rassurer le journaliste de France Culture. Nous sommes dans les nuits magnétiques qui n'y comprend goutte aux Wayampi.
Wayampi caracolé.
Caracolé, cartouche?
Non. Wayampi, cartouche, mokapa. Mokapa, Wayampi. Mokapa.
Mokapa. J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Et ça, en Wayampi, comment?
Ouais,
France, Paris, oui. Ouais. À Paris. Cayenne aussi, oui. C'est difficile.
Non, Cayenne, c'est payé.
Pierre?
Ouais.
Pierre?
Non.
Je comprends pas.
C'est difficile, Emmanuel Lézy.
C'est difficile, c'est surtout difficile de reconnaître qu'on comprend pas. Moi j'aime beaucoup un journaliste qui dit non, je comprends pas, là j'y arrive pas, je vais pas improviser, je vais pas inventer, je comprends pas. On est sur des limites culturelles aussi. Hein.
Les développeurs, là, au débouché de l'Oyapock, là où les gens vivaient de part et d'autre du fleuve, circulant en pirogue. Est-ce qu'ils ont très bien compris, quand ils ont décidé qu'il fallait faire un pont pour rejoindre l'État de l'Anapa au Brésil et le territoire français? Parce que ce pont, qui devrait être un truchement, ça devient une coupure chaque fois qu'on demande des papiers pour passer d'une rive à l'autre, et ça laisse tout déboussoler les habitants.
Il y a deux échelles de gestion du territoire guyanais. Il y a l'échelle locale des gens qui vivent sur place, et puis il y a l'échelle des gens qui relativement loin souvent, ou en tout cas distancés par leur bureau, leur ordinateur, se disent qu'est-ce qu'on va faire de la Guyane ? Est-ce que la Guyane serait pas par hasard pour la France une formidable opportunité de démontrer notre savoir-faire ? Est-ce que les Guyanais seraient pas très heureux d'avoir un barrage hydroélectrique produisant beaucoup d'énergie et puis montrant peut-être aux Chinois qu'on sait construire des barrages hydroélectriques en milieu tropical ?
Est-ce qu'un grand pont avec des haubans,
super, voilà, on a une technologie extraordinaire française qui est pas forcément adaptée aux besoins locaux. C'est souvent un petit peu le dilemme de la Guyane, effectivement.
Parce que jusqu'ici, on a suivi ou remonté les fleuves. On pourrait peut-être passer à la côte, à la route qui relie à l'embouchure de l'Oyapock Saint-Georges à Cayenne. Ça y est, elle est finie, cette route.
C'est une route qui est finie, qui a posé énormément de problèmes, parce que on parle toujours du sous-développement de la Guyane, et on mesure ce sous-développement en l'absence de route, ou en un réseau de circulation qui serait atrophié. Mais l'absence de route, c'est la grande richesse de la Guyane. C'est le seul endroit où le massif forestier amazonien est en contact avec le littoral. Donc la coupure par la route qui a été instaurée entre Regina et Saint-Georges était, sur le plan écologique, extrêmement compliquée à mettre en place. Il a fallu faire des trous sous la route pour que les animaux puissent passer. Il a fallu que les frondaisons des arbres puissent se réunir. Il a fallu fluidifier les rapports avec le Brésil, dont les Guyanais ne veulent sous aucun prétexte, parce que c'est évidemment l'afflux de populations immigrées attirées par les emplois, attirées parfois par le rêve d'emploi.
Mais alors, la route de Cayenne, on est plus au nord maintenant, à Saint-Laurent-du-Maroni, elle est ancienne. Il faudrait qu'on parle, pas tellement de Cayenne, mais d'une enclave. Kourou, avec sa plage de sable fin naturel.
Non, pas tout à fait naturel, ils ont amélioré. Hein.
Et puis, ces villages charmants, zone extraordinaire dont on va en entendre parler ici en pidgin, en anglais pidgin, hein, parce que c'est internationalisé. C'est en même temps qu'une fusée qui s'élève vers le ciel, c'est l'argent qui tombe du ciel.
A survey of a number of possible sites led to the selection of French Guiana, an equatorial region, most of which is forest. It's sparsely populated, about 85,000 inhabitants for 90,000 square kilometers. Half the population lives in Cayenne, while there are almost 10,000 inhabitants in Kourou, and the remainder are unevenly scattered among coastal villages and along the rivers. So it was that in 1964, the French National Space Center, the CNES, chose French Guiana as the site of its new operational launch center. The Guiana Space Center.
Il y a des enclaves en plus des îles. Alors c'est depuis longtemps une enclave. Je continue à vous faire de l'histoire. Milieu du XVIIIe siècle, le grand projet de peuplement du marquis de Choiseul. C'était là.
C'était là. Alors la Guyane a toujours été un lieu de grands projets métropolitains dans lequel on rêve de réunir l'extrême-orient avec l'extrême-occident. On se rappelle que c'était déjà le projet de Christophe Colomb. Choiseul, ce sera aussi le projet d'immigration volontaire proposé aux populations Hmong du Laos, hein, qui se sont installées. Choiseul est l'un de ces grands metteurs en place de projets pharaoniques, hein, qui sera responsable d'une hécatombe. J'ai plus les chiffres en mémoire, mais c'est une...
Vous dites dans votre livre, je rappelle votre
merci,
livre,
hein, merci.
Chez Belin, Guyane,
comme vous avez
Guyane,
dit tout à l'heure, il était
un peu
ancien.
Il est un peu ancien. Vous parlez de 10 000 personnes disparues.
Oui,
il y a eu 10-15 000 volontaires, il y en a 1800 qui ont pu rester sur place. Ça a mieux marché pour Kourou plus tard. Alors, vous connaissez Kourou?
Oui, j'ai passé 18 mois, je m'y suis fermement ennuyé à Kourou. Je crois qu'on connaît pas la Guyane si on s'y est pas ennuyé.
Mais vous dites qu'il y a des villages séparés les uns des autres. Et si j'en crois votre expérience, il y a guère que les prostituées, et encore c'est pas sûr, qui aillent d'un village de Kourou à un autre. Parce que c'est pas les mêmes qui sont utilisés par les ingénieurs du CNES ou par les légionnaires.
Bon, je voudrais pas parler de prostituées comme de choses qui seraient utilisées ou qui passeraient de l'un à l'autre. Hein. Le double thème de l'esclavage et de la prostitution sont pour moi des thèmes centraux de l'urbanisation et de la vie quotidienne en Guyane. Et c'est un des gros scandales qui doivent être dénoncés aujourd'hui comme ils l'ont toujours été. Le fait qu'il y ait un zoo vivant, un zoo humain en plein cœur de Cayenne qui s'appelle le quartier de la Crique, le fait qu'on ait des bordels militaires de campagne dans le quartier de la Légion, le fait qu'on ait des prostituées sur les boîtes de nuit des plages de Kourou, Kourou ne me paraît absolument pas quelque chose de folklorique ou de
d'amusant. Je ne l'ai pas vu comme tel.
Non, non, c'est pas vous que je reprends, mais
Vous dites des villages étrangers.
On
les a uns
des
aux
villages
autres.
Complètement étanches, effectivement, dont les relations sexuelles sont souvent effectivement les seules liaisons. Alors ça peut être la prostitution, ça peut être l'amour, hein, et le mariage. C'est relativement rare. Hein. On a le village de la Légion qui est complètement autonome. On a le village brésilien qui est attenant. On a le village créole traditionnel, ancien, autour de sa petite église très 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 jolie. On a un village de lotissement de banlieue française traditionnelle qui est le village du CNES. On a le village Saramaca qui est logé sur des pilotis. On a un fractionnement et d'une certaine façon un apartheid, parce qu'effectivement ce fractionnement communautariste aboutit à une hiérarchisation, et au bas de cette hiérarchie, ben il y a effectivement des gens qui font le sale boulot de prostituées, de main d'œuvre sous-payée, d'esclaves. Il y a aussi des formes d'esclavagisation qui perdurent en Guyane, qui ont été en quelque sorte protégées ou sanctuarisées par cette logique communautariste, hein, qui a été mise en place en Guyane française, comme au Suriname ou comme au Guyana.
Et ça l'utilise pour finir des métaphores géographiques. Vous dites, quand vous parlez du régime des eaux, parce que c'est tout à fait central dans votre étude de la Guyane, Emmanuel Lézy, que soit l'eau tombe du ciel, il pleut beaucoup, soit ça s'évapore. Et bien cette métaphore, elle vaut pour l'analyse de la vie politique.
Oui, d'une certaine façon, il y a des opinions, il y a des financements, il y a des richesses qui sont produites par la Guyane. C'est un des lieux de fertilité les plus importants du monde. On est sur cette gouttière équatoriale qui produit entre 60 et 70% des formes de vie du monde. Donc on a une fertilité absolument incroyable. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que les politiques ou les économistes ou souvent la population locale interprètent comme du développement. Le développement en Guyane, très souvent, il tombe du ciel. Hein, il tombe du ciel par l'État, par les ministères, par l'Agence française du développement. Il tombe souvent plus sous la forme de cette petite bruine que sont les promesses que sous les lourdes pluies tropicales de l'argent réellement payé au département. On le voit actuellement avec les promesses non tenues de 2014. Hein, le gouvernement français avait annoncé le déblocage dans un plan de responsabilité de entre 2 et 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, le gouvernement promet royalement 1 milliard. On n'est pas dans les lourdes pluies tropicales ici. On est au contraire dans l'attente de quelque chose qui pourrait rafraîchir un peu l'ambiance torride.
C'est une île. Mais grâce à cette île, la France est avec les États-Unis le plus grand pays du monde.
Oui, d'une certaine façon. Les Français le visualisent peu, hein, mais je pense que toutes les questions qui tournent autour de la Guyane aujourd'hui dans l'élection sur l'insularité, sur le peuple guyanais, sur les excuses à présenter au peuple guyanais, sont des questions centrales pour la France. Quelle est l'image de la France?
Oui, mais c'est une île parce qu'il y a un grand espace maritime autour.
Voilà, la France est riche de 11 millions de kilomètres carrés grâce à sa zone économique exclusive qui est arrimée sur la Guyane, sur les Antilles, sur la Réunion, sur la Polynésie française. La forme de la Guyane, c'est pas seulement l'hexagone continental, terrestre, c'est aussi cet espace extraordinaire qui fait de nous, oui, le deuxième plus grand pays du monde.
C'est un diamant, en fait, un Eldorado, un diamant avec beaucoup d'arêtes et de lignes de conflit. Merci à vous, Emmanuel Lézy. Guyane, on peut demander chez son libraire, et Belin va trouver les derniers exemplaires. C'est un livre formidable qui peut toujours se lire des années après sa publication.
Merci.
L'émission était réalisée par Gaëtan Coffi, avec à la technique Juliette Delperroux, et la préparation, c'était Frédéric Martin.